Proverbe chapitre 29, verset 18. Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est sans frein, mais heureux est celui qui garde la loi. J'ai intitulé ce message pour aujourd'hui Notre besoin et la raison d'être du prophète. Notre besoin du prophète et sa raison d'être, la raison d'être du prophète. C'est ce que j'aimerais que nous puissions contempler à travers principalement la parole de Dieu et que j'aimerais que nous puissions comprendre. Et donc, frères et sœurs, par la grâce de Dieu, j'aimerais que nous passions, nous passions un moment pour poser un fondement de compréhension sur à la fois notre besoin et sur la raison d'être, selon la Bible, du et des prophètes. C'est-à-dire des prophètes en général. Et donc du don de prophétie qui est exercé et manifesté par eux et en eux. C'est ça le sens de cet intitulé. Et le but de ce fondement de compréhension que j'aimerais que nous cherchions à obtenir, c'est de pouvoir ensuite, par la suite, dans un second temps, réfléchir sur et élargir la validité et l'importance de l'esprit de prophétie. Donc, vous voyez, c'est le but. Donc, je ne fais aucun calcul, aucun suspense. Je vous laisse comprendre ici pourquoi j'aimerais que nous nous attardions sur cette question de notre besoin du prophète et donc, par conséquent, de sa raison d'être. Parce que la raison d'être du prophète découle de notre besoin. Et c'est ce que nous allons voir d'ailleurs à travers cette brève étude biblique que j'ai à cœur de vous proposer. Et donc, en premier lieu, ce que nous voulons faire, c'est nous poser la question suivante, à savoir, avons-nous besoin des prophètes? Avons-nous besoin de prophètes? C'est-à-dire plus d'un, bien entendu, parce qu'il y a eu des prophètes par le passé, et beaucoup admettent leur existence. Et leur importance, parce que leurs écrits constituent le canon biblique, mais pour ce qui est des prophètes jusqu'à nous aujourd'hui, des prophètes qui aient une influence sur nous, il semble-t-il, beaucoup semblent penser que c'est superflu. Mais est-ce vraiment superflu? Est-ce superflu? À savoir, la parole de Dieu n'est-elle pas suffisante? Et les principes que nous voulons aujourd'hui contempler par la grâce de Dieu, nous voulons les contempler à la lumière, non pas des anciens, non pas des prophètes et des patriarches, ceux qui ont vécu bien avant nous et qui sont désormais morts et pour lesquels cette leçon n'a aucune incidence, sur lesquels ça n'a aucune incidence, ils sont morts. Certains sont montés au ciel, peu. Donc, nous voulons réfléchir à ces choses à la lumière de notre besoin, aujourd'hui. Et nous voulons donc savoir si nous avons besoin des prophètes. Quel est notre besoin? Est-ce que notre besoin est le besoin qu'avait le peuple de Dieu avant, si toutefois nous croyons à la Bible? C'est ce que nous allons explorer. Et dans un deuxième lieu, lorsque nous aurons pu répondre à cette interrogation, eh bien, nous voulons ensuite nous poser cette question, à savoir, pourquoi en avons-nous besoin? Donc, on va d'abord répondre à la question de est-ce que nous en avons besoin? Et en deuxième lieu, nous voudrons répondre à cette question de savoir pourquoi est-ce que nous en avons besoin? Et que désire faire Dieu pour nous par l'entremise des prophètes? Donc, nous sommes au premier volet, disons, tout d'abord. Premier volet de cette méditation pour aujourd'hui, à savoir le premier lieu, la première partie par rapport à notre besoin. Avons-nous besoin des prophètes? Et pour cela, nous voulons apprendre de l'expérience des enfants d'Israël, en commençant par le passage de Jérémie chapitre 8, verset 4. Jérémie chapitre 8, verset 4. Et encore une fois, je répète, nous voulons apprendre cela, non pas pour eux parce que eux sont morts, mais pour nous parce que nous sommes vivants. Jérémie chapitre 8, verset 4. Verset 4 jusqu'au verset 11, où je lis le suivant. Je vais lire tout en entier et ensuite nous allons y revenir pour pouvoir méditer et réfléchir. Verset 4. Tu leur diras donc, ainsi a dit l'Éternel, si l'on tombe, ne se relève-t-on pas, et si l'on se détourne, ne revient-on pas? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'est-il égaré d'un égarement continuel? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. J'ai prêté l'oreille, j'ai écouté, il ne parle pas droitement, nul ne se repent de sa méchanceté et ne dit, qu'ai-je fait? Tous, ils retournent à leur course comme le cheval qui se précipite au combat. La cigogne même connaît dans les cieux ses saisons, la tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps où elles doivent venir, mais mon peuple ne connaît pas le jugement de l'Éternel. Comment dites-vous, nous sommes sages et la loi de l'Éternel est avec nous? Il pose la question. Mais voici la plume menteuse des scribes en fait un mensonge. Les sages seront confus, ils seront épouvantés, ils seront pris car ils ont rejeté la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse auraient-ils? C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres et leurs champs à de nouveaux possesseurs. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous se conduisent faussement. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple en disant paix, paix, et il n'y a point de paix. Est-ce que vous arrivez à saisir un peu ici? La question que nous nous posons, hein, c'est dans le contexte de notre étude. C'est est-ce que nous avons besoin des prophètes? Est-ce que nous avons besoin des prophètes? Et ici, nous lisons au sujet d'une condition spirituelle du peuple de Dieu, au sujet duquel Dieu est en train de demander. Il pose cette question un peu rhétorique, mais qui porte également à réflexion, à savoir si on tombe, ne se relève-t-on? Et que, comme c'est marqué en anglais, si on tombe, est-ce que nous ne nous relèverons pas? Et si l'on se détourne, ne reviendrons-nous pas? Vous voyez, il demande. Mais toutefois, ce peuple de Jérusalem s'est égaré d'un égarement continuel, c'est-à-dire que il tombe, mais il ne se relève pas. Il se détourne, mais ne revient pas. Et il dit, il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Il dit, j'ai prêté l'oreille, j'ai écouté. Il ne parle pas droitement. Nul ne se repent de sa méchanceté et ne dit, qu'ai-je fait? Nul ne dit cela. Hein, donc, il compare à la nature et aux oiseaux de la nature qui ont leurs instincts. Mais il compare avec ce peuple et dit, mais mon peuple, donc les oiseaux, ils reconnaissent ces choses, mais mon peuple ne connaît pas le jugement de l'Éternel. Comment dites-vous? Il pose la question. Nous sommes sages. Et la loi de l'Éternel est avec nous. Il dit, comment est-ce que vous pouvez dire cela? Mais voici la plume menteuse des scribes en fait un mensonge. C'est-à-dire, la plume menteuse des scribes fait de la loi de l'Éternel un mensonge. Et au sujet de cela, nous lisons que ils ont rejeté la parole de l'Éternel et donc ils n'ont pas de sagesse. Et il dit que depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous se conduisent faussement. Donc c'est un peuple, nous le lisons, un peuple égaré, n'est-ce pas? Ce que nous avons lu ici, c'est un peuple qui s'est égaré d'un égarement continuel, le peuple de Jérusalem. Un peuple qui ne connaît pas le jugement de l'Éternel. Un peuple qui ne guérit pas proprement les plaies, les blessures spirituelles du peuple de Dieu. Nous le lisions au verset 11. Il pense à la légère, la plaie de la fille de mon peuple en disant paix, paix, et il n'y a point de paix. C'est-à-dire qu'ils disent, oui, la blessure, elle n'est pas trop grave, on va mettre un petit pansement. Et Dieu, il dit, et c'est pas bon. Cela va mener à la putréfaction. Mais alors, donc tout cela, ça fait partie de la condition, mais la question qu'on veut vraiment se poser, parce qu'en fait, nous n'avons pas encore répondu à la question initiale, eh bien, donc nous en posons une autre, à savoir, pourquoi cette condition-là? Qu'est-ce qui fait que ce peuple est arrivé à cette condition-là, spirituelle, dégradée, égarée et manifestant une absence de repentance. Nous lisions au verset 6, nul ne se repent de sa méchanceté en disant, qu'ai-je fait? Ils disent pas ça. Dieu, il dit, ils ont pas ça, ils rougissent pas, comme c'est marqué dans un autre passage. Et donc, pourquoi cette condition? Nous le lisons dans notre lecture biblique de Proverbes chapitre 29, verset 18. Alors, frères et sœurs, nous lisons cela non pas pour nous sentir supérieurs à ces personnes-là, car en réalité, ces personnes, ces gens, ne nous ont été donnés vraiment qu'en leçon de choses et comme une illustration de ce que fera toujours l'homme charnel qui est exposé aux tentations du diable, qu'il soit religieux ou pas. Et d'ailleurs, tout particulièrement s'il est religieux, parce que c'est de personnes religieuses dont il s'agit, parce que le peuple de Jérusalem était un peuple qui croyait en Dieu. Proverbes chapitre 29, verset 18, voilà donc la raison de leur condition. Nous lisons, lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est sans frein, sans frein. Mais heureux est celui qui garde la loi. Heureux est celui qui garde la loi de Dieu. Réfléchissez un peu ici avec moi. Réfléchissons au-delà de simplement le message de surface qui est donné ici afin de pouvoir comprendre le lien entre la condition spirituelle d'égarement et de transgression et d'iniquité qui est liée à l'absence de vision. Réfléchissons ensemble. Je vais vous dire comment c'est écrit dans les différentes Bibles afin que nous puissions avoir une compréhension élargie de cette parole inspirée de Proverbes chapitre 29 verset 18, où il est écrit que lorsqu'il n'y a point de vision, je cite, le peuple est sans frein. Et alors voilà comment c'est écrit dans d'autres Bibles. Dans la Bible King James, en anglais, il est écrit, lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple périt. Périt, du verbe périr, c'est-à-dire se détruit, va en décadence. Le peuple se perd, pourrait-on dire. Dans une autre Bible, je n'ai pas la référence ici, c'est le peuple, quand il n'y a pas de vision, le peuple se dissipera. Dans une autre encore, lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est abandonné. Abandonné quoi? Je ne sais pas, de plusieurs manières. Abandonné à lui-même, abandonné de Dieu, les deux sont vrais. On continue. Dans une autre version, dans la Bible Chouraki, il était marqué que lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple se détraque et sans frein, périt, est abandonné, se détraque. C'est-à-dire le peuple est détraqué. Le peuple n'a plus de point de référence. Vous voyez? Le peuple est sans boussole, sans direction, détraqué. Vous voyez? Une autre version, la Bible Vigouroux nous dit: lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple sera renversé. C'est-à-dire que le peuple va à la renverse. Le passage de Jérémie, chapitre 8, nous disait que le peuple est égaré et... qu'est-ce que c'était? Le peuple est égaré... Excusez-moi, je n'ai pas mis le doigt dessus. Jérémie, chapitre 8, verset... Voyons voir. Verset 6, nul ne se repent de sa méchanceté. Les sages seront confus, ils seront épouvantés, ils seront pris. Et ils retournent à leur course. Ils persistent dans la tromperie. Voilà. Ils persistent dans la tromperie. C'est un peuple qui est renversé. Et dans la Bible en portugais, c'est le peuple se corrompt. Le peuple se corrompt, du verbe corrompre. C'est-à-dire, le peuple est corrompu, hein, détraqué, le peuple périt, le peuple est sans frein. Toutes ces choses sont complémentaires, toutes ces choses sont vraies. Toutes ces choses sont des traductions vraies. Et définissent la condition spirituelle du peuple qui est dépourvu de vision. Mais alors, que veut dire, quel est le sens biblique de ce mot vision et qu'est-ce que Dieu veut dire lorsqu'il dit lorsqu'il n'y a point de vision? À savoir, par quels moyens viennent les visions? Tournez-vous avec moi vers le passage de Nombre, chapitre 12. Nombre, chapitre 12. Nombre chapitre 12. Et je vous invite ici, frères et sœurs, et je vous demande de faire preuve d'attention parce que nous sommes ici en train d'étudier la parole de Dieu et de laisser chaque texte biblique lier la pensée, être lié à la, dans sa, dans la pensée à l'autre afin que nous puissions avoir une chaîne de pensée de Dieu. Parce que la Bible est la parole de Dieu. Seulement encore faut-il faire bien les liens. Et je vous demande de faire attention et de bien voir ici, d'examiner comme des Béréens, pour voir si est-ce que nous sommes ici en train de faire bien le lien ou est-ce que le lien est faussé. Et si nous faisons bien le lien, eh bien nous voulons tirer des leçons de ces liens que nous sommes en train de faire dans cette étude. Dans Nombre chapitre 12, verset 6. Nombre chapitre 12, verset 6, et il dit, écoutez bien mes paroles. Donc c'est Dieu qui parle. Hein. Écoutez bien mes paroles. S'il y a parmi vous un prophète, moi, l'Éternel, je me fais, ou je me, comme c'est marqué en anglais, je me ferai connaître à lui en vision, je lui parlerai en songe. Donc, quel est le sens biblique du mot vision et comment est-ce que Dieu l'emploie et qu'est-ce qu'il sous-entend par ce mot? Il parle de prophète. Qu'est-ce que c'est? S'il y a parmi vous un prophète, moi l'Éternel, je me ferai connaître à lui en vision. Donc la vision est le moyen par lequel Dieu se fait connaître au prophète afin qu'il puisse, à travers le prophète, transmettre à son peuple un message. Et pas simplement la vision, mais le songe. C'est-à-dire que la vision, c'est quelque chose où le prophète est vu par d'autres, c'est-à-dire que d'autres sont les témoins oculaires de ce que, du moment pendant lequel Dieu transmet au prophète une vision et un message. Et le songe, c'est les moments où et les moyens par lesquels Dieu s'adresse au prophète afin de parler au peuple, mais en privé. Donc nous avons la vision et le songe. Les deux sont également les moyens par lesquels Dieu s'adresse au prophète pour parler au peuple, sauf que l'un est public et l'autre est, disons, caché. Par exemple, Samuel, c'était typiquement un exemple d'un songe, c'est-à-dire que c'était pendant la nuit, Dieu s'est révélé à Samuel. Élie n'a pas entendu, n'a pas vu la vision de l'Éternel à Samuel. Donc, je suis juste en train de donner du contexte, mais vous, nous voyons ici la base biblique de la définition de vision. Lorsque Dieu parle de vision, il parle de prophète. Lorsqu'il est décrit que lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est sans frein, ça veut dire lorsqu'il n'y a point de prophète qui reçoit une vision. C'est ça le sens. Alors, le peuple est sans frein. Pourquoi? Parce que le peuple n'est pas en train de recevoir de Dieu des messages. Et en quoi ces messages sont importants? Nous allons le voir. Nous allons continuer de voir, et nous voulons continuer ici de voir la condition du peuple sans vision, qui est donc sans frein, qui périt, qui se détraque et se corrompt. Allez avec moi vers le passage de Osée, le prophète Osée, chapitre 4. Osée, chapitre 4, verset 6. Osée 4, verset 6, nous lisons. Mon peuple, donc c'est Dieu encore qui parle, il dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Ensuite, il continue, puisque toi tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai afin que tu n'exerces plus devant moi le sacerdoce, etc. Qu'est-ce que c'est? Mon peuple est détruit faute de quoi? Faute de connaissance. Et donc, réfléchissez ici avec moi, à la lumière de la parole de Dieu ici. Nous voulons faire sens sans ajouter ni ôter quoi que ce soit de cette parole. Dans Proverbes chapitre 29, verset 18, nous lisions que lorsqu'il n'y a point de vision, c'est-à-dire point de prophète actif, pour ainsi dire, lorsqu'il n'y a point de prophète actif, point de prophète qui reçoivent des visions de l'Éternel, le peuple est sans frein. Nous avons lu d'autres versions qui nous disent que le peuple périt. Hein? Le peuple est renversé. Le peuple se détraque. Le peuple est abandonné. Le peuple se dissipe. Le peuple se corrompt. Et ici, nous lisons, et au sujet du peuple de Dieu encore, parce qu'il dit mon peuple, et que dit Dieu? Il dit mon peuple est détruit. Hein, détruit, périt et renversé. Hein, parce que c'est un peuple qui est détruit, mais ce n'est pas un peuple qui est détruit, savoir qu'il meurt. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. C'est un peuple qui est détruit spirituellement. Alors oui, certes, par conséquent, nous connaissons dans l'histoire du peuple d'Israël qu'ils ont été envahis par les nations comme la Syrie, ensuite Babylone, etc. Et donc oui, certains sont littéralement morts et détruits, mais si vous réalisez, si vous exercez bien votre réflexion, ici vous voyez que la destruction dont il est question n'est pas uniquement une destruction de mort, et principalement ce n'est pas cela, c'est une destruction spirituelle. C'est-à-dire que le peuple qui est censé observer les commandements de Dieu et garder sa loi et lui être fidèle et ses témoignages, il est détruit, à savoir il est renversé, il est abandonné. Il est détraqué. Et pourquoi? Mon peuple est détruit faute de connaissance. Mais alors, si le peuple est détruit, ou à savoir est péri, ou à savoir est détraqué, ou à savoir est sans frein, faute de connaissance, et nous avions lu que le peuple est sans frein lorsqu'il n'y a point de vision, cela veut-il donc dire que les visions qui sont données par les prophètes sont source de connaissances? Les visions, ce ne sont pas nécessairement des annonces d'événements à venir. Principalement, ce n'est pas cela. Alors certes, Dieu a souvent averti son peuple des choses qui leur arriveraient s'ils n'étaient pas fidèles, mais ce sont des avertissements de jugement à venir plutôt que simplement des prophéties sur l'avenir. Vous voyez? Mais ces avertissements sur les choses qui leur surviendraient ne venaient généralement qu'en conclusion de toutes les choses qu'il leur avait demandé de faire et qu'ils n'avaient pas faites. Mais principalement, Dieu cherche à communiquer une connaissance à travers les visions des prophètes. Une connaissance sans laquelle nous lisons que son peuple est détruit. Et donc dites-moi, parce que nous sommes encore sur le volet, à savoir de avons-nous besoin des prophètes? Mais la réelle question, c'est que deviendrons-nous sans eux? Qu'est-ce que nous deviendrions? Un peuple sans frein, détruit et sans connaissance. Vous voyez? Parce que la connaissance vient par la vision et la vision par le prophète. Et nous poursuivons ici. Donc nous avons lu que le peuple, je fais un résumé, hein, bien pour accumuler ces choses, nous avons lu que le peuple périt faute de vision. Et nous lisons que le peuple de Dieu est détruit faute de connaissance. Il existe donc un lien entre les visions des prophètes et la connaissance par laquelle le peuple de Dieu est préservé. Vous voyez? Il y a un lien. Les visions des prophètes et la connaissance par laquelle le peuple de Dieu peut seulement être préservé sont liées. Vous voyez? C'est-à-dire, si nous enlevons les visions des prophètes, est-ce qu'elle existe, la connaissance, sans laquelle le peuple de Dieu ne peut pas être préservé? Non, c'est lié. La parole de Dieu nous montre que ces choses sont synonymes. Vous voyez? À savoir, si nous voulons prospérer dans le Seigneur, mais que nous rejetons ces prophètes, est-ce que nous ne sommes pas confrontés à une impossibilité biblique? Continuons. Continuons ici. Continuons et lisons ensemble le psaume 74. Pour comprendre également, nous sommes encore en train d'essayer de comprendre notre besoin, si nous en avons besoin. Et si oui, en quoi? Le psaume 74, verset 9. Le psaume 74, verset 9, je lis. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophète ni personne avec nous qui sache jusqu'à quand. Il n'y a plus de prophète ni personne avec nous qui sache jusqu'à quand. Si j'ai bien compris ici, les signes dont il s'agit, ce sont les symboles qui étaient présents et donné au peuple de Dieu à travers les sacrifices et les offrandes qu'il faisait des animaux. Il me semble comprendre que lorsque, et d'ailleurs on le voit au verset 7, lorsque les païens ou les nations environnantes sont venues envahir Jérusalem, au verset 7, nous lisons qu'ils ont mis en feu ton sanctuaire, ils ont jeté à terre, profané la demeure de ton nom, ils ont dit en leur cœur, détruisons-les tous, ils ont brûlé toutes les synagogues de Dieu dans le pays, et c'est là qu'il dit donc, nous ne voyons plus nos signes. Donc c'est pour juste expliquer ce début de verset. Mais ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est la deuxième partie du verset 9, à savoir, il n'y a plus de prophète, ni personne avec nous qui sache jusqu'à quand. Donc, la raison d'être du prophète et la raison pour laquelle nous avons besoin de lui, hein, je fais une généralité, ensuite plus tard, par la grâce de Dieu, nous irons dans plus, en davantage de détails. Mais donc, pour le moment, une de ces raisons d'être et la raison pour laquelle nous avons besoin du et des prophètes, c'est que la présence du prophète nous permet de nous situer dans l'histoire et de nous situer dans l'accomplissement des prophéties. Et la présence du prophète, fait briller la lumière dans notre obscurité. Allez-y avec moi. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. Parce que la valeur cette caractéristique propre au prophète qui est exprimée ici par ces paroles, ni personne avec nous qui sache jusqu'à quand, ne peut être réellement mesurée qu'à la lumière des paroles de 2 Pierre chapitre 1 verset 19. Et ici, vous remarquerez, non sans importance, que l'apôtre Pierre disait que, au verset 16, ce n'est point en suivant des fables composées avec artifice que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais, dit-il, hein, c'est après avoir vu de nos propres yeux sa majesté. L'apôtre Pierre disait que lui, parce qu'il dit nos yeux, donc pas juste lui, mais les autres apôtres avec lui, ont vu, je pense qu'il parle de la montagne de la Transfiguration avec Jacques et Jean, et je crois que c'est ça, et ils sont montés sur la montagne et ils ont vu le Seigneur Jésus, quoi? Sa majesté. Verset 17, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire lorsque cette voix lui a été adressée par la gloire suprême, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venue du ciel lorsque nous avons été avec lui sur la sainte montagne. Oui, voilà, donc c'est bien cela. Sur la montagne de la Transfiguration, hein, Jésus a appelé avec lui trois de ses disciples, pas tous, simplement trois. Et ils sont restés avec lui, et ensuite ils ont vu dans cette transfiguration, ils ont vu Élie et Moïse se tenant l'un à la gauche et à la droite de Jésus et s'entretenant avec lui. Et ensuite, je crois que c'est Pierre qui a dit, il est bon de rester ici, demande que nous posions des tentes pour rester, bref, etc. Et l'apôtre Pierre, il dit, voilà, nous avons vu le Seigneur, nous avons vu sa gloire, sa magnifique gloire. Nous avons vu cette vision de Jésus nous avons entendu cette voix du ciel du Père qui approuvait de son Fils. Mais verset 19. Verset 19. Nous avons aussi la parole des prophètes qui est très ferme. Et en anglais, c'est important. Il y a marqué, nous avons même une parole prophétique plus certaine. We have even a more sure word of prophecy, littéralement. Nous avons encore une parole de prophétique plus certaine. Nous avons aussi la parole des prophètes qui est très ferme, à laquelle vous faites bien de vous attacher comme à une lampe qui brillait dans un lieu sombre jusqu'à ce que le jour resplendît et que l'étoile du matin se leva dans vos cœurs. Et donc, la parole des prophètes nous permet, oui, permet que nous ayons la connaissance, que nous nous situions, nous puissions nous situer dans l'accomplissement des prophéties, mais elle est également comme une lampe qui brille dans un lieu obscur ou sombre. C'est-à-dire que la transmission de Dieu à travers les visions des prophètes est-elle une lumière qui brille dans le lieu obscur? Dans le lieu obscur de notre solitude, dans le lieu obscur de nos égarements, dans le lieu obscur de notre incertitude, dans le lieu obscur de notre ignorance des prophéties. Dans le lieu obscur de notre incapacité de déterminer où nous nous trouvons sur la trajectoire qui mène vers, pourrait-on dire, le début de l'éternité, c'est-à-dire le retour physique glorieux de Jésus. Sans la parole des prophètes, nous n'avons personne pour nous dire jusqu'à quand. Voyez? Parce que à la lumière de l'intervention de Dieu par les visions des prophètes, Ceux qui travaillent à la lumière de cela seront en mesure d'être éclairés, mais ceux qui rejettent cela restent dans l'obscurité. Voyez? Et poursuivons ici à travers les paroles de Jérémie chapitre 4, verset 22. Jérémie chapitre 4, verset 22. Et nous élargissons encore cette pensée. C'est que mon peuple est insensé, ils ne me connaissent pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Habiles pour faire le mal, mais ne savent pas faire le bien. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est un peuple insensé, ils ne me connaissent pas. Ce sont des enfants insensés, mais quoi? Ils sont dépourvus d'intelligence. Notez bien ici le mot intelligence, parce que il me semble que si nous nous tournons vers les paroles du Proverbe chapitre 2, je vais vérifier ici parce que je n'avais pas prévu ce passage, mais si nous nous tournons vers les paroles de Proverbe chapitre 2, oui, c'est bien cela, verset 1 à verset 1 à 6, vous voyez ici le sens biblique et important d'intelligence. Nous venions de lire dans Jérémie chapitre 4, verset 22, ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Un peuple qui ne connaît pas Dieu. Pourtant, c'est le peuple de Dieu, il dit, qu'est-ce que c'est? C'est que mon peuple est insensé. Donc réfléchissons ici. C'est un peuple qui se réclame du nom de Dieu, qui dit qu'il sert Dieu, qui dit qu'il est le peuple de Dieu, autrement il n'appellerait pas son peuple, ils auraient fait autre chose. Mais il dit, ils ne me connaissent pas. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont dépourvus d'intelligence. Et si vous remarquez ici, il n'est pas dit qu'ils n'ont pas certaines connaissances. Et dans Proverbe chapitre 2, nous lisons au verset 1 tout d'abord. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu conserves avec toi mes commandements, tellement que tu rendes ton oreille attentive à la sagesse et que tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles à toi la prudence et si tu adresses ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent, si tu la recherches soigneusement comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche procède la connaissance et l'intelligence. Il réserve le salut à ceux qui sont droits et il est le bouclier de ceux qui marchent avec intégrité. Verset 9, alors tu connaîtras la justice et le jugement et l'équité et tout bon chemin, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance sera agréable à ton âme. Et donc si vous regardez ici, il y a un lien qui est fait dans la parole de Dieu entre la connaissance et l'intelligence, de telle sorte que la combinaison de ces deux éléments est ce qui constitue la sagesse. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche procède la connaissance et l'intelligence. Et nous avions lu précédemment que, qu'est-ce que c'était? Mon peuple est détruit faute de connaissance, mais de quelle connaissance? C'est pas qu'ils ne savent pas certaines choses, c'est que ils ne me connaissent pas, dit le Seigneur. Et qu'est-ce qui leur fait qu'il manque de ces choses-là? Nous avions lu juste avant, là où il n'y a pas de prophète, là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein, le peuple périt, mon peuple est détruit faute de connaissance, ils ne me connaissent pas. Et d'où vient tout cela? C'est au verset 2, nous lisons, chapitre, excuse-moi, Proverbe chapitre 2, verset 1, nous disons que c'est parce qu'ils ne reçoivent pas les paroles de Dieu. Proverbe chapitre 2, verset 1, si tu reçois mes paroles et si tu conserves avec toi mes commandements. Mais les paroles viennent comment? Par le moyen des prophètes. Du moins, elles venaient comme ça avant. Alors, maintenant, aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu et nous nous disons, oui, mais voilà, la parole, elle est là, il n'y a plus besoin, c'est terminé. Mais est-ce vrai? Est-ce vrai? Parce que eux, à leur époque, avaient la loi de Moïse, et ils auraient eux également pu se dire, voilà, mais on a déjà la loi, c'est bon. Il n'y a rien à ajouter. Et qu'est-ce qu'il y avait à ajouter par-dessus? Tous les prophètes à ajouter par-dessus. Et donc, se peut-il que ce même principe du fait que eux avaient déjà la loi, le Pentateuque, la Torah, mais que à cela, Dieu a ajouté tous les prophètes, se peut-il que à la parole de Dieu, la Bible, maintenant, Dieu, en ces derniers jours, ajoute des prophéties, ajoute des témoignages. Je laisse cela en l'air parce que plus tard, j'aimerais que nous nous concentrions sur la place du don de prophétie dans l'Église chrétienne. Mais tout d'abord, j'aimerais que nous nous concentrions sur un panorama, une vision panoramique de ce sujet pour absorber ce concept de notre besoin du prophète. Et pour cela, j'aimerais que nous poursuivions avec les paroles d'Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1, verset 2 à 7. Encore une fois, hein, nous sommes en train de jongler ici, à la fois pour comprendre ce que le prophète apporte et ce que Dieu cherche à donner à travers le prophète, et nous revenons ensuite, nous, pas en arrière, mais nous voulons davantage absorber la condition spirituelle du peuple qui est sans le prophète, ou du moins à qui le prophète vient et les prophètes sont venus, mais qui ont décidé d'essayer de faire sans. Regardez un peu. Ésaïe chapitre 1, verset 2. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri des enfants et je les ai élevés, mais ils se sont rebellés contre moi. Oui? Donc le langage de Dieu dit, mais je suis avec eux depuis le début, maintenant ils ont cherché un autre sentier. Vous voyez, nous voulons voir comment c'est possible, même en ces derniers jours, d'avoir été éduqués par quelque chose, et ensuite nous disons, oh ouais, mais en fait, il n'y a pas besoin de tout ça. Et Dieu, il dit comme ça, il dit, c'est moi qui les ai éduqués. Et maintenant, ils disent, oh, on n'a pas besoin de tout ça. Vous voyez, on veut comprendre qu'en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ésaïe chapitre 1, verset 2, et donc verset 3. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël n'a point de connaissance, mon peuple n'a point d'intelligence. Vous voyez? Et Dieu, c'est bien clarifié ici. Il n'est pas en train de dire que le peuple, il n'a pas certaines connaissances. Il n'est pas en train de lui dire que le peuple, il ne connaît pas les commandements. C'est pas ça qu'il dit. Il dit que la connaissance qu'ils ont, le manque de connaissances qu'ils ont, il est déterminé par l'absence d'intelligence. Et le fait de ne pas avoir d'intelligence, c'est ce qui les définit comme des personnes qui sont dépourvues de sagesse. Et une personne qui est dépourvue de sagesse, elle est définie comme ne connaissant pas l'Éternel. On a fait le lien entre les passages ici. Nous avons lu. C'est un peuple insensé qui est dépourvu d'intelligence. Ils ne me connaissent pas. Nous avons lu dans Proverbes chapitre 2 que la connaissance et l'intelligence combinées, c'est ce qui constitue la sagesse divine selon la Bible. Et il dit au sujet de ce Israël, qui connaissent leur maître et leur possesseur, Israël, lui, ne reconnaît pas son créateur. Pourquoi? Pas par hasard. Verset 4. Ah, nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, race de méchants, Enfants corrompus, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont détournés en arrière. Où vous frappez encore si vous continuez vos révoltes? Toute la tête est malade et tout le cœur languissant, de la plante du pied jusqu'à la tête, il n'y a rien de sain, ce ne sont que blessures, meurtrissures et plaies vives qui n'ont point été pansées, ni bandées, ni adoucies avec l'huile. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu, l'étranger dévore vos campagnes sous vos yeux. Tout est dévasté comme après un ravage fait par l'étranger. Mais alors, pourquoi? Je suis en train de dire ces choses, mais à escient, frères et sœurs, à escient. Je fais ça dans un but très précis. Vous allez voir. Vous allez voir que ensuite toute cette chaîne est connectée et inséparable. Pourquoi cette condition? Pourquoi Israël n'avait-il pas, et j'aimerais même dire, n'a-t-il pas de connaissance et n'a-t-il pas d'intelligence? Pourquoi? Deux Rois, chapitre 17. Deux Rois, chapitre 17, versets 13 à 20. Deux Rois 17, verset 13. Voilà maintenant pourquoi cette condition. Parce que Dieu dit ces choses sachant pertinemment et eux, et les lecteurs eux-mêmes sachant pertinemment quelle était l'origine de cette condition. Et quelle était-elle? Deux Rois, chapitre 17, verset 13, nous lisons: Et l'Éternel somma Israël et Juda par chacun de ses prophètes et de ses voyants, leur disant: Revenez de vos mauvaises voies, gardez mes commandements et mes statuts, selon toute la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs, les prophètes. Verset 14. Mais ils n'écoutèrent point et ils roidirent leur cou comme avait fait leur père qui n'avait point cru à l'Éternel, leur Dieu. Ils méprisèrent ses statuts et l'alliance qu'il avait traitée avec leur père et les témoignages par lesquels il les avait sommés, hein, les témoignages, c'est-à-dire les témoignages des prophètes. Ils allèrent après la vanité et devinrent vains. Et après les nations qui étaient autour d'eux, bien que l'Éternel eût défendu de faire, leur eût défendu de faire comme elles, Verset 16, et ayant abandonné tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu, ils se firent des images de fonte, de veaux, ils firent des emblèmes d'Achéra, ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal, ils firent aussi passer par le feu leurs fils et leurs filles, ils s'adonnèrent aux divinations et aux sortilèges, et ils se vendirent pour faire ce qui déplaît à l'Éternel afin de l'irriter. Aussi l'Éternel s'irrita fort contre les Israélites et les rejeta de devant sa face. Il ne demeura de reste que la seule tribu de Juda. Juda même ne garda pas les commandements de l'Éternel, son Dieu, mais ils marchèrent dans les coutumes qu'Israël avait établies. Et l'Éternel rejeta toute la race d'Israël, il les humilia et les livra entre les mains des spoliateurs jusqu'à les bannir loin de sa face. Pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? Verset 14. Alors qu'il les avait sommés par chacun de ses prophètes et de ses voyants en leur disant: revenez de vos mauvaises voies, gardez mes commandements et de mes statuts, etc. Et que je vous ai envoyé par mes serviteurs les prophètes. Verset 14. Ils n'écoutèrent point. Et ils roidirent leur cou comme avait fait leur père qui n'avait point cru à l'Éternel leur Dieu. C'est-à-dire que croire à l'Éternel leur Dieu, cela ne pouvait se faire qu'en recevant, en écoutant les sommations de l'Éternel à Israël et à Juda de revenir de leur mauvaise voie. Sommations qu'il leur avait adressées par chacun de ses prophètes et de ses voyants. Voyez? Comment est-ce qu'ils auraient pu croire à l'Éternel leur Dieu? En recevant les exhortations et en écoutant et en obéissant aux paroles des prophètes. Pourquoi? Parce que Dieu leur parlait à travers les prophètes. Mais ils n'écoutèrent point, ils roidirent leur cou. C'est-à-dire qu'en lien avec l'influence et le rôle et la raison d'être du prophète et du don de prophétie, existe le danger pour nous de ne pas écouter et d'endurcir nos cœurs et de roidir notre cou. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais lorsque quelqu'un vous irrite et que vous ne voulez pas réparer les torts, vous réconcilier avec cette personne, vous avez réellement que deux choix. Vous pouvez soit chercher la réconciliation, soit vous endurcir. Et cet endurcissement, généralement, il peut littéralement se traduire par un durcissement du cou. Ils roidirent leur cou. C'est littéralement une réponse physiologique à quelqu'un envers qui vous ne voulez pas faire preuve d'amour. Vous voyez? Et c'est ce qu'ils ont fait envers Dieu. Et c'est ce que font les hommes et les femmes en ces derniers jours, tout le temps à Dieu. Tout le temps. Et c'est ce que nous voulons apprendre à ne pas faire, de peur que nous devenions comme eux, détruits. Quoi? Qu'est-ce que c'était d'autre? Détraqués. Qu'est-ce que c'était? Sans frein, sans frein. C'est ça qui est grave. C'est que lorsque nous n'écoutons pas les paroles des prophètes, nous devenons vains et nous allons après les choses des nations aux alentours. C'est-à-dire, nous allons après les plaisirs du monde. Subtilement, aussi progressivement que cela puisse être. Alors certes, ces choses peuvent nous paraître absurdes, qu'ils se firent des images de fonte, des veaux et firent des emblèmes à Asherah. Mais mes frères et sœurs, ils n'avaient pas de smartphone à l'époque. Hein? C'est ça. C'est ça. Des idoles peuvent être minuscules, tellement minuscules que personne ne les connaît, si ce n'est vous et Dieu et tout l'univers. Mis à part vos compères et vos confrères et vos pères, etc. Vous voyez? Et nous voulons poursuivre avec le passage de Ésaïe, chapitre 30, verset 8, qui est également lié à cela, bien qu'il y ait certaines répétitions, mais je pense que ça vaut le coup pour nous d'y aller également, parce qu'ensuite nous allons pouvoir conclure. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 8. Verset 8, Ésaïe 30, va maintenant, grave-le sur une table en leur présence et écris-leur dans un livre afin que cela demeure pour le temps à venir, à toujours et à perpétuité. Car c'est ici un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel et qui disent aux voyants, ne voyez point, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas la vérité. Dites-nous des choses flatteuses, voyez des illusions, sortez de la voie, détournez-vous du chemin, ôtez de notre vue le Saint d'Israël. Dites-moi, frères et sœurs, ça vous est déjà arrivé de réagir comme cela à l'esprit de prophétie? Je suis en train d'aller complètement droit au but ici. Parce que c'est ça que nous voulons réaliser, c'est que ce langage qui était ici tenu par ces hommes n'est autre que le langage typique de l'homme charnel en réaction aux déclarations du témoignage de Jésus. Nous allons explorer cette question du témoignage de Jésus bien en détail, mais je suis juste en train de vraiment susciter notre réflexion. N'est-ce pas comme cela que nous réagissons par nature aux choses qui vont droit en travers de qui nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous avons fait et ce que nous sommes presque en passe de refaire? Voyez? Parce que si le Saint-Esprit, le témoignage de Jésus vient à nous alors que nous sommes en plein dans une préparation pour faire quelque chose qui n'est pas réellement en harmonie avec la parole de Dieu, qu'est-ce que nous ferons? Parce que eux ont fait quelque chose qui leur permettait de continuer leur tracé. C'est-à-dire qu'ils ont dit, non, 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 on a déjà prévu quelque chose. Hein? Ils ont pas écouté. Comme par exemple, quand le peuple d'Israël voulait savoir s'ils devaient aller en Égypte ou pas, ils ont demandé à un des prophètes, les prophètes leur ont dit oui, ensuite ils ont demandé à un autre prophète, je me souviens plus exactement, les prophètes leur ont dit non. Et donc ils disent, à qui on écoute? Est-ce qu'on écoute la personne qui fait plaisir à moi, à mes désirs, qui satisfait mes envies, mes ambitions, mes projets, ou est-ce que j'écoute la voix de Dieu? Voilà, c'est juste pour illustrer le principe selon lequel le témoignage des prophètes n'ira pas jamais dans le même sens que notre désir naturel charnel. Et donc, nous sommes en danger de faire, ou du moins de penser ce que disaient ces personnes, à savoir, aux voyants, ne voyez point, ou aux prophètes, ne nous prophétisez pas la vérité, dites-nous des choses flatteuses, voyez des illusions. Et donc, parce que le don de prophétie ne nous communique pas les choses que nous voulons entendre, parfois nous disons, c'est pas vrai, en fait, c'est pas digne de foi, en fait, je crois pas, en fait, c'est pas pour moi, non, c'est pas correct, c'est. Hein? Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment pas correct ou est-ce que j'ai juste pas envie? Nous voulons réfléchir. Sortez de la voie, détournez-vous du chemin, ôtez de notre vue le Saint d'Israël. Lorsque le témoignage de Jésus nous parle, il nous montre le Saint d'Israël et des fois c'est trop dur. Non, c'est pas ça le Dieu que j'ai imaginé. C'est pas ça. Montre-moi un autre Dieu. Quoi? Ôtez de notre vue le Saint d'Israël. Il est trop saint ce Dieu. Remontre-moi le Dieu que j'avais imaginé. Remonte, c'est ça que je veux voir. C'est pas juste ça là. C'est ça, mes frères et sœurs. Faut se réveiller. Moi, des fois, je sais, je suis en train de témoigner de choses que j'ai moi-même fait l'expérience. Je lisais. L'esprit de prophétie venait à moi à travers le prédicateur. Je me disais, c'est ça vraiment? C'est ça qu'il faut écouter tout le temps? Qu'est-ce qu'il dit cela? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que c'est l'homme intelligent? Ou est-ce que c'est la partie de nous qui est dépourvue d'intelligence et de sagesse, qui juste a une connaissance, mais qui n'a pas appliqué cette connaissance selon la pensée de Dieu, et qui marche, qui agit un peu alternativement selon la chair? Hein, c'est ça que l'on veut pouvoir évaluer ici, à la lumière de la parole de Dieu, verset 12. C'est pourquoi, ainsi a dit le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole et que vous vous confiez dans la violence et dans l'artifice et que vous les prenez pour appui, à cause de cela, cette iniquité sera pour vous comme une crevasse menaçant ruine qui fait saillie dans un mur élevé et qui s'écroule tout à coup en un moment. Verset 14, il se brise comme se brise un vase de terre cassé sans pitié dans les débris duquel on ne trouve pas un tesson pour prendre du feu au foyer, ni pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est en retournant à moi et en demeurant tranquille que vous serez sauvés, c'est dans le repos et la confiance que sera votre force. Et ensuite il dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Mais qu'est-ce que c'est qu'ils n'avaient pas voulu? Ils ne voulaient pas des conseils que le Seigneur voulait leur donner par le moyen des prophètes. Hein? Ce qu'on disait au verset 10, il disait aux voyants, ne voyez point aux prophètes, ne nous prophétisez pas la vérité. Il disait, dites-nous des choses flatteuses, voyez des illusions, sortez de la voie, détournez-vous du chemin, ôtez de notre vue le Saint d'Israël. Ils n'ont pas voulu, mais Dieu cherchait à travers ses visions et ses songes, ses messages, cherchait à les faire retourner à lui afin qu'ils puissent demeurer tranquilles. Il cherchait à ce que dans le repos et la confiance en Dieu à travers ses prophètes, ils puissent trouver leur force. Est-ce que vous voyez notre besoin, à la fois notre besoin et la raison d'être des prophètes? Nous avons donc vu, frères et sœurs, le sort de ceux qui ont rejeté par le passé, et d'ailleurs qui rejettent encore à ce jour, les paroles des prophètes. Nous voyons également que les visions gardent le peuple en vie spirituellement. Nous avons vu cela, parce que nous avons lu l'inverse, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple périt, se détraque, est sans frein, est renversé, est abandonné, etc., sans la vision. Mais lorsqu'il n'y a pas de vision, c'est quoi? C'est l'inverse, c'est il est établi, il est conduit, il est discipliné, il est fortifié avec la vision, n'est-ce pas? C'est juste une logique, c'est-à-dire que si sans vision il est cela, alors avec vision il est l'opposé de cela. Et donc nous avons vu que les visions gardent le peuple en vie spirituellement et qu'elles lui transmettent la connaissance de Dieu. Hein? Il a dit, écoutez mes paroles, afin que vous puissiez, de la bouche du Seigneur viendra la sagesse, c'est lui qui communique la connaissance et l'intelligence. Ils ne me connaissent pas parce qu'il leur manque l'intelligence, parce qu'ils ont demandé à ce que les voyants ne voient point et que les prophètes ne leur prophétisent pas la vérité. Mais si c'est l'inverse, alors ils reçoivent l'intelligence parce que le don de prophétie est destiné à nous faire, à nous montrer l'application de la connaissance selon la pensée de Dieu, non pas selon notre pensée. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est dans. Est-ce que je vais le trouver ici? Le passage, peut-être dans le psaume 34. Voyons voir à tout hasard. Enfin, hasard, non, mais. Il y a un passage qui parle de ne pas s'appuyer sur notre propre intelligence ou notre propre entendement. Mais est-ce que je vais le trouver? Je ne sais pas. Verset 38 peut-être. Verset 37. Ouais, ce n'est pas ça, mais en tout cas, excusez-moi, il y a un passage qui nous dit, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, mais mets ta confiance en l'Éternel. Quelque chose comme ça. Je paraphrase, il faudra que je vous le trouve, et je le mettrai dans les commentaires. Et donc, si nous nous appuyons sur notre propre intelligence, eh bien nous ne voudrons pas et nous ne désirerons pas l'intelligence que Dieu cherche à nous donner. Sauf que seule l'intelligence que Dieu nous donne nous permettra d'avoir la sagesse divine. Et seul à travers la sagesse de Dieu pourrons-nous connaître Dieu. Parce que en obtenant la sagesse de Dieu, nous avons la pensée de Dieu et nous participons à sa nature. Nous sommes en train de faire vase communicant avec Dieu à travers le Saint-Esprit. Et donc, vous pouvez voir ici combien est important le rôle et la raison d'être du prophète. C'est que sans le prophète et sans le don de prophétie, nous sommes voués à être sans frein en ce que nous n'aurons que la connaissance de la parole, mais que nous serons en danger par-ci, par-là, ou à de nombreux égards, de ne pas avoir la juste compréhension, la juste intelligence de la connaissance qui se trouve dans cette Bible. Vous voyez? Et qu'est-ce que nous voyons d'autre? Dans Osée chapitre 6, verset 5, nous allons conclure par ces dernières pensées. Osée chapitre 6, verset 5, Osée après Daniel. Osée chapitre 6, verset 5. C'est pourquoi, je vais vous le lire tel que c'est marqué dans la Bible Darby, c'est pourquoi je les ai hachés par les prophètes, je les ai tués par les paroles de ma bouche et mes jugements éclateront comme la lumière. Je vous ai lu comme c'est marqué dans la Bible d'Arbi parce que c'est très important le langage qui est ici donné. Bon, dans la Bible observale, il est marqué, c'est pourquoi je les frappe par les prophètes, je les tue par les paroles de ma bouche. Et dans la Bible d'Arbi, il y a marqué, je les ai hachés. C'est-à-dire que hacher, c'est-à-dire que vous coupez certaines parties. Hein? Imagine, vous voulez hacher de la viande. Ou, comme c'est marqué dans la Bible Chouraki, intéressant le langage, qui est généralement très 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 proche de l'hébreu, il y a marqué, j'ai tailladé. Tailladé. Hein? Une taille. Et dans la Bible Martin, je les ai charpentés. Donc on commence à saisir l'idée, c'est-à-dire que par les prophètes, Dieu nous taille, ou charpente, c'est-à-dire nous aiguise. Et donc nous voyons ici l'une des raisons d'être des prophètes, c'est de nous purifier, c'est-à-dire doter le surplus d'affiner les angles, etc. Et pour cela, j'aimerais attirer votre attention vers les paroles qui se trouvent dans cette citation de l'esprit de prophétie, permettez-moi, même si nous sommes aussi un peu dans les balbutiements de pouvoir en saisir et en comprendre la validité et l'importance que nous ferons par la suite, mais toutefois, vous allez voir combien cela fait sens, cette déclaration qui se trouve dans Conseil à l'Église, à la page 231 et au paragraphe 2. Le temple de Jérusalem était construit en pierre. Nous sommes ici en train d'essayer de comprendre ce langage de c'est pourquoi je les ai hachés par les prophètes. Je lis. Le temple de Jérusalem était construit en pierre de taille prise dans les montagnes. Chacune d'elles, ayant sa place désignée à l'avance, avait été équarrie, c'est-à-dire taillée, poli et éprouvé avant d'être à pied d'œuvre. Une fois là, c'est-à-dire une fois sur le site du temple, le travail se faisait sans qu'on entendît le bruit d'un marteau. Intéressant, non? Cette construction représente le temple spirituel de Dieu, composé de matériaux provenant de toute nation, de toute langue, de tout peuple, et de petits, de riches et de pauvres, de savants et d'ignorants. Mais il ne s'agit pas de substances inertes devant être façonnées au moyen du marteau et du ciseau. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des pierres inertes. D'ailleurs, c'est marqué ici, ce sont des pierres vivantes, prises dans le monde par le moyen de la vérité. D'ailleurs, à un endroit, l'esprit de prophétie nous dit, nous avons été hachés, nous avons été pris du monde par le grand hachoir de la vérité. C'est-à-dire que la vérité, elle nous sépare complètement du monde. Mais ensuite, Dieu doit nous taillader, nous équarrir, nous tailler, nous polir. Et comment le fait-il? Par le moyen des prophètes, qui nous donne l'intelligence pour arriver à cerner comment la Bible s'applique à nous. Le grand architecte, je poursuis, le maître du temple est maintenant occupé à les équarrir. Maintenant, en cette période du jour antitypique des expiations. Le maître du temple est maintenant occupé à les équarrir, à les polir, à les préparer à occuper leur place respective dans ce temple spirituel. Une fois achevé, celui-ci, ce temple, sera parfait dans toutes ses parties et fera l'admiration des anges et des hommes, car Dieu en est l'architecte et le constructeur. Que nul ne pense qu'il n'a pas besoin d'être ciselé. Ciselé, c'est-à-dire avec un ciseau à pierre. Vous voyez? Aucune nation n'est parfaite dans toutes ses habitudes et toutes ses pensées. Nous sommes tous imparfaits dans nos habitudes et nos pensées, et pour cette raison même, nous avons besoin de l'intervention des prophètes, et donc tout particulièrement en ces derniers jours, de l'esprit de prophétie. Et j'aimerais ici terminer par ces paroles qui se trouvent dans Premiers Écrits à la page 70, paragraphe, ou 71, paragraphe 1, premier paragraphe. Je vous mettrai la citation en plus grand dans le fichier, mais là je vais juste, pour conclure, lire ce bref morceau. Ceux qui refusent d'être modelés littéralement, le même mot qui est écrit dans Osée chapitre 6 verset 5, à savoir frapper ou taillader ou charpenter ou tailler, ceux qui refusent d'être taillés par les prophètes, qui ne purifient pas leur âme en obéissant à toute la vérité, ceux qui sont disposés à croire que leur condition est bien meilleure qu'elle n'est en réalité, arriveront au temps des fléaux, c'est-à-dire des plaies, et s'apercevront alors qu'ils avaient besoin d'être taillés et équarris pour faire partie de l'édifice de Dieu. Oh, dites-moi, la parole des prophètes, est-ce que cela joue un rôle de notre préparation? Et se peut-il, d'ailleurs, n'est-ce pas inévitable, qu'en rejetant la parole des prophètes, nous sommes par la même occasion en train de rejeter l'expérience de taillage et d'équarrissement pour que nous puissions faire partie de l'édifice de Dieu? Je relis, hein, ils s'apercevront alors qu'ils avaient besoin d'être taillés et équarris pour faire partie de l'édifice de Dieu, mais ce sera trop tard, car aucun médiateur ne plaidera plus leur cause devant le Père. Auparavant, on aura entendu cette déclaration solennelle, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. J'ai vu que nul ne pouvait avoir part au rafraîchissement s'il n'avait auparavant obtenu la victoire sur chaque défaut, de points, l'orgueil, l'égoïsme, l'amour du monde, sur chaque parole et action mauvaise. Il faut donc s'approcher toujours plus près du Seigneur et rechercher sérieusement cette préparation indispensable qui nous rendra capables de subsister au combat du jour du Seigneur. Souvenons-nous que Dieu est saint et que seuls des êtres saints peuvent subsister en sa présence. Je vous ai lu, pardon. Dans Premiers Écrits, page 71, paragraphe 1 à 2. Est-ce que vous sentez, selon notre niveau de sensibilité ou de roideur de cou ou de disposition à entendre et écouter, nous serons proportionnellement en capacité de nous sentir taillés, charpenté, haché par la parole des prophètes. Et donc, frères et sœurs, nous avons contemplé aujourd'hui, dans cette brève méditation, notre besoin, à la fois notre besoin et la raison d'être du prophète et des prophètes. Et par la grâce de Dieu, sabbat prochain, j'aimerais que nous nous attardions, je ne sais pas également exactement comment je vais l'intituler, mais que nous attardions sur la présence, la validité et l'importance du don de l'esprit de prophétie dans l'Église chrétienne. Et par la grâce de Dieu, ensuite, nous pourrons nous pencher davantage sur la manifestation de ce don dans Sœur Ellen G. White. En attendant, je vous souhaite une très bonne et heureuse fin de sabbat. Puisse le Seigneur enrichir nos cœurs cette réflexion et puisse-t-il nourrir notre désir de sonder sa parole afin de nous conformer et de nous mettre en harmonie avec sa pensée. C'est ma prière que Dieu vous bénisse et puisse le Seigneur nous bénir tous dans cette direction. Amen.